150 ans après, feuilleton sonore sur les traces d'Alexandre Dumas. Chapitre 2, un premier ministre qui aime les mousquetaires.
Aujourd'hui, comme promis, nous allons rencontrer un premier ministre, mais peut-être d'abord un lecteur, car finalement, elle se trouve là, la postérité de Dumas, dans cette communauté d'esprits gourmands qui dévore ses romans et dont vous faites sans doute partie, chers auditeurs. Mon invité aime retrouver les mousquetaires comme de vieux compagnons. C'est un rituel personnel. Il dit rire avec Porthos et se venger avec le comte de Monte Cristo. Il a aussi lu des œuvres plus rares, comme le Sphinx rouge sur le cardinal de Richelieu. Pas étonnant au regard de ses activités politiques. Notre lecteur mystérieux se trouvait à Matignon jusqu'au 3 juillet dernier. Il est aujourd'hui maire du Havre. Bonjour Édouard Philippe.
Bonjour.
Alors en 2017, vous avez écrit « Des hommes qui lisent », une sorte d'autobiographie, une véritable déclaration d'amour à la lecture. Vous y dévoilez des goûts plutôt éclectiques. Un homme politique a-t-il vraiment le temps de lire ?
Sans doute certains ne lisent-ils pas, d'autres essaient d'organiser leur vie et leur activité, à la fois professionnelle et personnelle, pour conserver cet instant et ces moments de à la fois de plaisir, et puis qui ne sont pas simplement des moments de plaisir, mais qui sont utiles dans l'équilibre qu'on peut rechercher. Donc moi, je me suis toujours attaché à conserver des moments de lecture, même quand mon activité politique était intense, ce qui était le cas à Matignon.
Alors, Dumas occupe une place de choix dans votre panthéon littéraire. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre, de votre première lecture ?
De Dumas ?
Oui.
Probablement était-ce une version un peu abrégée des Trois Mousquetaires, je pense. Et j'avais beaucoup aimé. Non, ce qui m'a le plus frappé, c'est la deuxième fois que je l'ai lu, parce que je me suis rendu compte que non seulement j'aimais, comme on aime bien des choses, mais que j'y trouvais quelque chose de très unique. Et qui comptait beaucoup pour moi. Et les Trois Mousquetaires, et 20 ans après, et le Vicomte de Bragelonne, que je lis tous les 10 ans, je me suis fixé cet objectif à 20 ans, je lis tous les 10 ans les trois à la suite, sont des livres qui comptent beaucoup pour moi, parce que c'est probablement la plus belle et la plus longue histoire d'amitié, enfin en tout cas à mes yeux, une des plus belles et une des plus complexes histoires d'amitié qu'on trouve dans la littérature française. Et voilà, c'est pas un roman d'aventure, c'est pas le roman de vengeance, c'est vraiment le roman d'amitié qui sont pas simplement des amitiés, des camaraderies combattantes, comme il en existe, mais qui sont vraiment des relations d'amitié très complexes, et à plusieurs, pas simplement à deux, mais à quatre. Oui, j'aime vraiment beaucoup.
Et si vous étiez l'un de ces quatre amis ?
Alors, je les aime tous. C'est d'ailleurs pour ça que c'est extraordinaire, parce qu'évidemment, il a construit un système dans lequel, au fond, on peut retrouver dans chacun quelque chose qui est à la fois soit qu'on envierait, soit dans lequel on se reconnaîtrait. Je dois dire que j'ai une tendresse pour Porthos qui ne me correspond absolument pas, parce qu'il est truculent, ce que je ne suis pas. Et j'ai une tendresse pour Athos qui, lui, est tout en sévérité et en austérité, mais qui, en même temps, est un bouillonnant sous cette sévérité. Donc j'aime beaucoup Athos. Ouais.
Et quand vous étiez à Matignon, est-ce que parfois vous êtes dit que vous étiez le successeur de Richelieu ?
Non. non, je ne me suis pas dit ça.
Vous êtes resté de l'autre côté de la barrière, alors ?
Je ne me suis pas dit ça. Je suis resté de l'autre côté de la barrière, oui.
Et que pensez-vous de la façon dont Dumas raconte la politique ? Il en parle beaucoup dans ses romans, finalement.
Il en parle beaucoup. Il parle beaucoup d'histoire, il parle beaucoup de pouvoir, il parle beaucoup d'intrigue. Il assume d'ailleurs assez volontiers de la prendre par des formes de lorgnette. Ce qui l'intéresse dans 20 ans après, ce n'est pas la Révolution. Si vous voulez, ce que je trouve amusant, c'est qu'il ne parle pas de politique. Mais évidemment, elle est partout. D'une certaine façon, mais ça surprendra peut-être, je trouve que son roman le plus politique, c'est le Comte de Monte Cristo, parce qu'à travers la vengeance d'une personne, on voit quelqu'un qui défait un système. Et au fond, c'est probablement le livre le plus politique, je crois. Enfin, oui, je crois. Ouais. Mais il l'a décrit très bien. Mais la vérité, c'est qu'il décrit tout très bien. Quand on rentre dans un Dumas, qu'on soit fasciné par les personnages a priori, ou que l'on connaisse ou non l'époque dont il se saisit, on est frappé par sa capacité à immédiatement capter l'attention, à poser en quelques phrases un cadre qui n'est pas forcément le cadre général, puisqu'il n'attaque pas nécessairement par le personnage principal. Mais il a cette espèce de puissance narrative qui vous saisit. C'est remarquable. Et vous pouvez prendre n'importe quelle page et vous avez tout de suite quelque chose qui vous attire, enfin en tout cas quelque chose, moi, qui m'attire dans le texte.
Et c'est peut-être l'aventure d'une certaine façon. Est-ce que c'est ça qui vous attire? Est-ce que vous pensez que dans le monde d'aujourd'hui, il y a encore une place pour l'aventure?
Oui, bien sûr. Évidemment qu'il y a encore. Il y a toujours de la place pour l'aventure. Ben partout. Il y a des aventures entrepreneuriales, il y a des aventures politiques, il y a des aventures... Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la chance d'échanger quelques mots avec un jeune marin havrais qui s'appelle Charlie Dalin, qui est en ce moment en tête du Vendée Globe Challenge. Ben, je vous assure que quand on lui parle, on a le sentiment qu'il parle aventure. Et du reste, c'en est une. Bien sûr, l'aventure, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas heureusement cantonné à une époque ou à un statut. L'aventure, c'est dans la tête, c'est la capacité à tracer un trait ambitieux, c'est la capacité à consacrer des moyens et de l'intelligence à une ambition ou à un projet. Et au fond, d'ailleurs, ce que montre Alexandre Dumas, c'est que quelle que soit l'époque, il y a de l'aventure. Et ça vaudrait pour la nôtre.
Et du panache, parce que je crois que vous aimez aussi beaucoup Cyrano. Il y a ouais. Un lien quelque part avec les mousquetaires. Pour vous, quelle serait une définition du panache?
Je ne suis pas sûr de savoir le définir autrement que ce que Rostand en dit quand il justement évoque Henri IV et son panache blanc, ou quand il fait à l'acte 5 mourir Cyrano en prononçant ce mot qui est le dernier mot de la pièce, le panache, c'est-à-dire au fond cette espèce de chose très française. J'ai vu d'ailleurs que le terme entrait dans la langue britannique, panache, exclusivement quand on le traduisait, ou quand on essayait de traduire et qu'on n'arrivait pas à traduire le terme de la pièce de Rostand. Le panache, c'est cette espèce de mélange entre la très grande élégance, une forme d'orgueil. C'est un mélange de choses qui ne sont pas forcément positives ou admirables et qui forment un tout exceptionnel et admirable. Et donc, il y a un peu d'orgueil dans le panache. Il y a un peu de mégalomanie dans le panache. Il y a un peu d'inutilité. Il y a un peu de... Et en même temps, il y a quelque chose qui est la recherche de la belle attitude, d'une forme de... Oui, d'esthétique et de morale, qui fait qu'on peut perdre avec panache ou gagner avec panache. Et qu'au fond, quand on commence à aimer cette qualité, elle devient plus importante que le fait de gagner ou de perdre. C'est d'ailleurs ce que dit Cyrano.
Alors nous allons
c'est ce que montrent d'une certaine façon les mousquetaires, sauf peut-être Aramis, qui manque un peu de panache à certains égards.
C'est vrai ?
Un peu, ouais. D'Artagnan en a, Porthos en a. Porthos, il a du panache sans le savoir, d'une certaine façon. Aramis est plus calculateur, c'est le plus politique des quatre, avec Athos, mais c'est le plus politique des quatre, bien sûr. Enfin bon, il y a d'autres personnes, tout au long des personnes qu'il décrit, Alexandre Dumas, au fond, décrit des gens qui peuvent avoir du panache. Dans la San Felice, il y a des gens qui ont du panache. Dans la Reine Margot, il y a du panache. Il peut y en avoir, en tout cas. Et on sent que ça compte pour lui.
C'est un point commun. Alors, nous allons revenir à vos habitudes de lecture, parce que, visiblement, vous aimez lire, relire, relire encore. Qu'est-ce que vous allez chercher dans un livre que vous connaissez déjà, en y revenant ?
D'abord, enfin, faut être modeste. Quand on dit qu'on relit un livre 10 ans après l'avoir lu une fois, on connaît peut-être l'histoire et on s'est fait une idée sur les personnages. Enfin, on a encore 1000 choses à découvrir. 1000 formules, 1000 descriptions, mille profondeurs psychologiques qu'on aurait moins bien compris. Puis, entre le moment où vous lisez et le moment où vous relisez un livre, vous-même, vous avez changé. Et donc, forcément, les choses qui vous faisaient résonner 10 ans auparavant ne le font peut-être plus de la même façon. Et puis, d'autres choses peuvent vous parler ou vous pouvez les comprendre et les saisir différemment. Donc, oui, relire un livre comme revoir un film, dès lors qu'il s'agit d'un livre qui vous a marqué, qui est un bon livre, est quelque chose qui compte. Et je dirais que quand on a lu et qu'on relit un livre avec peut-être pas exactement le même plaisir, mais autant de plaisir, même s'il est différent, alors on sait qu'on a quelque chose qui est particulier. Et je dois dire que je ne me suis pas encore lassé des livres de Dumas que j'aurais relus. Mon sujet étant que, comme je ne les ai pas tous lus, je ne suis pas sûr de pouvoir un jour tous les avoir relus.
La tâche est vaste. Et pour les mousquetaires, c'était quand la dernière fois ?
La dernière fois, écoutez, je viens d'avoir 50 ans. Je pense que c'est à peu près au moment où j'ai passé j'étais juste avant de devenir maire. Donc, ça devait être à 38 ans. Donc, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Il va falloir que je m'y remette.
Et pour vous, en quoi Dumas, 150 ans après sa mort, est-il d'actualité aujourd'hui ? Toujours d'actualité ?
D'abord, parce que je pense qu'il n'est pas loin d'être une forme d'auteur universel. Et que c'est justement ce qui, d'une certaine façon, les définit, c'est-à-dire qu'il reste d'actualité, quelles que soient les époques, et peut-être même quels que soient les lieux. Pour moi, il est un des écrivains, il est peut-être, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus littéraires que moi et qui reconnaissent que Dumas est un grand écrivain, mais à qui ne viendrait pas l'idée de dire que c'est le plus grand écrivain français. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr du tout que ce soit le plus grand écrivain français. Je suis maintenant à peu près sûr que c'est celui que je préfère. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres, mais c'est celui que je préfère. Et je trouve qu'il exprime probablement des passions, des qualités, des préoccupations qui sont parmi les plus emblématiques de ce qu'est la France, et en tout cas de l'idée que je m'en fais. Et donc, il est évidemment encore très moderne, parce que les thèmes qu'il décrit, parce que les caractères qu'il décrit, les préoccupations qu'il décrit sont de toute évidence encore très contemporaines, et le resteront toujours. L'amitié, la vengeance, l'ambition, le pouvoir, la trahison, la fidélité, la loyauté à une idée ou à une personne, tout ça, c'est quand même des choses qui demeurent, et quelle que soit l'époque dans laquelle on les inscrit, et Dieu sait qu'il les inscrit dans une époque, on peut en tirer quelque chose qui dépasse l'époque, dépasse le lieu, et c'est ça qui est aussi intéressant.
Alors vous dites que Dumas est universel, et en même temps, il est très français d'une certaine façon.
Oui, mais c'est très français que de penser que dès lors qu'on est très français, on est un peu universel. Alors évidemment, je tombe sans doute un peu dans ce travers. Je sais quand même que tous ceux qui n'ont pas baigné dans la culture française depuis leur plus jeune âge, lorsqu'ils découvrent l'œuvre, non pas les X adaptations qu'on en a fait, mais quand ils découvrent l'œuvre d'Alexandre Dumas, ils trouvent quelque chose qui relève quand même de l'universel. Et ce n'est pas propre au fait que Dumas soit français. Encore une fois, les très grands écrivains produisent ça. Quand vous lisez du Shakespeare, vous trouvez aussi de l'universel. Et c'est tant mieux.
Alors, je crois que vous avez une sorte d'affection particulière, ou peut-être même d'admiration, pour le général Dumas, oui. Le père d'Alexandre, une histoire de père et de fils. Qu'est-ce qui vous inspire dans cette figure ?
D'abord, le fait que, alors même que j'aime Alexandre Dumas et que j'aime l'histoire, j'ai au fond découvert, non pas du tout après des recherches, mais simplement parce que je ne m'en étais jamais préoccupé, j'ai découvert tard qui était le père d'Alexandre Dumas, qui était le général Dumas. Et alors, je dois dire que la figure historique et le caractère de l'homme, son parcours sont incroyables, mais incroyables. Je trouve curieux, étonnant, très regrettable qu'on n'ait pas porté au nu Alexandre Dumas, grand-père, si j'ose dire, puisque lui aussi s'appelait Alexandre. Donc, parce que voilà quelqu'un qui part, voilà quelqu'un, un métis, dans la société de la fin du XVIIIe siècle, dont le père est aristocrate désargenté, qui revient en France après avoir grandi dans les îles, mulâtre donc, comme on dit à l'époque, finalement a la toute jeunesse d'un fils de bonne famille, puisqu'il vit très correctement à Paris en faisant la fête, qui se fâche avec son financeur, qui décide de s'engager dans l'armée au premier rang de l'armée royale, puisque la Révolution n'est pas intervenue, et qui, en quelques années, par sa force physique, par sa grandeur d'âme, par ses qualités de commandement et je dirais de charisme, devient l'un des généraux les plus prestigieux et les plus glorieux, d'une certaine façon, de la jeune République française, qui commande l'armée des Alpes, qui se conduit au combat de façon parfaitement héroïque, et dont toute la vie montre que pendant la période révolutionnaire et républicaine, le fait qu'il est métisse n'est à aucun moment, c'est fascinant, à aucun moment un obstacle à son succès. Il épouse très tranquillement la fille d'un aubergiste qui manifestement, de ce que je lis de lui, ne lui voit qu'un problème au moment où il rencontre sa fille, c'est que il est encore pas officier. Et donc, il lui dit de revenir quand il aura pris un ou deux grades. Il revient colonel, le père Dumas. Donc, évidemment, là, hop, il épouse la fille, la mère donc d'Alexandre Dumas.
L'affaire est dans le sac.
L'affaire est dans le sac. Et voilà. Et c'est à la fin de sa vie, et à la toute fin de sa vie, après l'avènement de Napoléon, avec qui il entretient des relations manifestement difficiles depuis la campagne d'Égypte, qu'au fond, il va se retrouver en butte à cette société qui se referme sur elle-même et qui renvoie dans les colonies tous les Noirs qui sont venus sur le territoire de la métropole. Et ça, c'est terrible, parce qu'il est une respiration démocratique et un modèle démocratique, un modèle républicain exceptionnel. Et donc oui, j'ai beaucoup d'admiration pour son parcours. Et en plus, Alexandre Dumas, l'écrivain, est incroyablement admiratif de son père, qui meurt quand il a 4 ans. Hein, donc, il le connaît peu. Il a quelques souvenirs de lui, mais il le connaît peu. Et il est incroyablement admiratif de son père. Et donc, toute sa vie, je pense que dans la façon dont il traite l'histoire, il y a quelque chose du lien un peu disparu avec son père. Il y a quelque chose de très amusant dans sa relation avec l'Italie. Alexandre Dumas...
Qui revient souvent.
Mais bien sûr, et Alexandre Dumas est garibaldien, il vend une partie de ses biens pour financer les expéditions de Garibaldi, il le suit en Sicile, il va à Naples. Bon, or Naples, le royaume de Naples, c'est le royaume qui emprisonne son père et qui se conduit d'ailleurs très mal avec son père. La détention du général Dumas dans le sud de l'Italie, dans le royaume des deux Siciles, se passe très mal et n'est pas conforme au canon de l'époque, et probablement d'ailleurs parce que le général Dumas est métisse. Et pourtant, Alexandre Dumas fils est en admiration devant Naples, devant la Sicile, et il écrit La Sainte Felice, qui est un livre qui d'ailleurs traduit très bien cette fascination et en même temps cette parfaite compréhension de la violence intrinsèque de la foule napolitaine et de la Sicile, enfin de l'Italie du Sud en tout cas. Donc c'est le lien entre le père et le fils est passionnant, et je trouve dommage que la figure du fils, qui est exceptionnelle, bon, vous avez compris toute l'admiration que j'ai pour lui, ait presque au fond capté toute l'attention et ne laisse pas un peu plus de place à son père.
Alors, pour finir, il y a peut-être une dernière chose que vous avez en commun avec Alexandre Dumas. Je pense aux feuilletons qui, finalement, ne sont pas très loin des séries télévisées d'aujourd'hui, qui vous intéressent beaucoup. Je crois que vous-même, vous en préparez une. Peut-être un petit mot sur le suspense. En quoi le suspense vous intéresse ?
Alors, d'abord, ce serait immodeste et franchement indécent de me comparer à Alexandre Dumas. Mais ce qui est vrai chez Alexandre Dumas, c'est que, et c'est une chose qui me fascine beaucoup, c'est qu'il a une puissance littéraire que je trouve considérable, et en même temps c'est un écrivain populaire, et il écrit des feuilletons, et on l'oublie quand on lit ses livres, même si on constate que c'est écrit comme ça, mais il écrit des feuilletons, et d'ailleurs c'est grâce aux feuilletons qu'il écrit beaucoup, parce que toutes ses grandes œuvres paraissent quand même dans les feuilletons de l'époque. Et la série d'aujourd'hui, eh ben, c'est à l'image ce que le feuilleton de l'époque est au roman. Et c'est la même puissance, c'est la même capacité à travailler dans la durée, à renvoyer, et donc à laisser maturer le lecteur autant que le personnage entre deux publications, à les faire avancer ensemble. C'est assez formidable, c'est un art très différent du film ou du roman. Il faut le percevoir comme ça. Le suspense, Alexandre Dumas n'est pas un auteur à suspense. Il aime rythmer. C'est un écrivain qui met du rythme. Je ne crois pas que ce soit. Je dirais pas que c'est un écrivain qui joue sur le suspense, mais il met du rythme et il renvoie et il fait avancer et ensuite il rebondit. Et le feuilleton l'oblige à mettre un rythme très particulier qui rend sa lecture très, très, très agréable, hein, il faut bien le reconnaître. Ça aide, plus la limpidité de la langue, ça aide. Donc voilà, c'est plus quelqu'un qui a un sens du rythme étonnant qu'un écrivain qui travaille sur le suspense.
Et pour finir, Édouard Philippe, en deux mots, en quoi vos lectures ont-elles façonné l'homme que vous êtes aujourd'hui ?
En tout. Il n'y a pas que les lectures qui façonnent un homme. Mais en tout, ce qu'on lit vous construit. Et d'ailleurs, ce qu'on ne lit pas vous fait sans doute défaut. Mais la somme d'expérience, la somme de vision du monde, la somme de connaissances que vous pouvez affleurer grâce aux lectures vous construit forcément. Et encore une fois, il n'y a pas que les lectures, il y a aussi la musique qui compte beaucoup, il y a la peinture. On ne voit jamais le monde de la même façon une fois qu'on connaît les tableaux les plus sombres de Goya, les tableaux les plus écorchés de Schiele, les plus dorés de Klimt et puis ceux de Delacroix.
Eh bien, c'est sur Delacroix que nous vous laissons. Un grand merci, Édouard Philippe.
Merci à vous.